Bonjour, bonsoir à tous, nous sommes l'équipe Calisson et vous avez le plaisir, que dis-je, l'honneur d'écouter ce tout nouvel épisode du Café Culture. Le Café Culture, c'est quoi? C'est ce rendez-vous mensuel dans lequel l'équipe de Calisson se retrouve pour vous donner ses meilleures recommandations culturelles. On vous parle de ce qu'on a vu, de ce qu'on a aimé, de ce qu'on a lu, etc. Et aujourd'hui, le programme est chargé entre une série de films, un album de rail et des musées. Aujourd'hui, plus que jamais, l'honneur est à la culture, ça tombe bien, vous écoutez Le Café Culture. Allez, générique.
Mesdames et messieurs, bonjour. Un nouveau générique.
Vous n'aimez pas la ville? Allez vous faire foutre.
Vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre.
Monsieur Sassoli.
Vous savez, quand je prends pas tout
est de bonne ou de mauvaise situation.
C'est un pic.
Si je devais résumer
ma vie, c'est un cap. C'est une péninsule.
Life is
good. Good afternoon, good evening and good night.
Alors, aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas seul, toujours aussi bien entouré. À côté de moi, Rebecca, comment ça va?
Ça va et toi? Et vous?
Très bien, très bien.
Très bien.
Laura, comment ça va?
Coucou la team. Coucou, ça va? Bah franchement, moi ça va, un peu fatigué, mais ça va.
Mm-hmm.
Tout se passe bien.
Et on a Manon qui est à la régie, mais qui va intervenir sur ce podcast.
Coucou.
Je sais pas si vous l'entendez.
On entend pas.
Mais du coup, c'est moi qui ouvre le bal, qui commence les hostilités. Alors, moi, pour ce mois-ci, j'aimerais vous parler d'un film, mais avant ça, j'aimerais faire un petit état des lieux du cinéma actuel. Parce que depuis quelques années, je trouve que le cinéma de science-fiction perd en vitesse, et même le cinéma de grand spectacle, on va dire, tend à perdre un peu en vitesse, à part des adaptations, des remakes et des suites. On n'a pas vraiment de films originaux qui ont été écrits avec une histoire purement originale qui ne se base sur rien. Faites le test autour de vous, vous regardez dans les films sortis les 10 dernières années, les films originaux sont assez rares à Hollywood. Alors bien sûr, on a des exceptions. Je pense par exemple à The Creator de Gareth Edwards qu'on a eu cette année, ou on a eu Nope de Jordan Peele l'année dernière. Mais ce genre de film reste quand même assez rare. Et aujourd'hui, on a des logiques capitalistes, on va dire, qui font que les investisseurs ont peur de mettre de l'argent sur des œuvres qui ne sont pas des succès assurés. Et Hollywood préfère mettre de l'argent dans une énième adaptation de Godzilla, des séries Star Wars ou encore des films Spider-Man qui rassemblent les trois acteurs pour être sûr de rassembler tous les fans. D'ailleurs, j'aimerais rappeler deux choses. Avec le dernier film Marvel, The Marvels, on est à 33 films dans le MCU, sans compter les séries, les TV specials, les courts-métrages, etc. Bref, ça fait beaucoup. Et deuxièmement, on serait peut-être face à un essoufflement de ce phénomène, parce qu'en 2023, et pour la première fois depuis 2014, il me semble, les studios Disney n'ont sorti aucun film qui a dépassé le milliard au box-office, alors qu'à contrario, en 2019, ils en avaient sorti 7 qui avaient atteint le milliard, à savoir Avengers 4, Le Roi Lion, La Reine des Neiges 2, Star Wars 9, Captain Marvel, Toy Story 4 et Aladdin. Et vous remarquerez que tous ces films sont soit des remakes, soit des suites, soit des adaptations, voire plusieurs de ces trucs à la fois. Et face à ce déclin artistique, on va dire, je pense qu'un peu de fraîcheur nous semble nécessaire et nous ferait du bien. Et je viens vous en apporter parce que je viens vous parler d'un film d'action, d'un film noir, d'un film de science-fiction et surtout un film français. Aujourd'hui, je vous parle de Mars Express de Jérémy Perrin. Alors, Mars Express, de quoi ça parle? Ça se déroule dans un futur plus ou moins éloigné, où Mars a été colonisé par les humains. Donc, on a des villes qui ont été installées avec une société, etc. On suit le personnage d'Aline, qui est une détective privée, et son coéquipier, Carlos, qui, ensemble, vont enquêter sur la disparition d'une étudiante. Alors, ce plot plutôt simple va être mêlé à toute une histoire de robots et d'intelligence artificielle. Et honnêtement, c'est un putain de film. En termes de rythme, je trouve que le film est assez impressionnant. Ça commence vraiment dans les 5 premières minutes. Vous regardez les 5 premières minutes du film et puis vous êtes directement dedans. Ça dure que 1h30. On ne s'ennuie jamais. Et vraiment, en 1h30, le film arrive à condenser toute une enquête avec des retournements de situation, des sous-intrigues à base de problèmes familiaux, de problèmes d'alcool, etc. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dur de réussir à rassembler autant de thématiques, de sous-scénarios dans un film qui dure moins d'une heure trente. C'est extrêmement compliqué et ça témoigne d'un réel talent pour révéler toute l'essence du film sans pour autant qu'on soit perdu, qu'on se sente dépassé par un trop-plein d'informations. Et surtout, le film assume le fait de nous introduire, nous en tant que spectateurs, de nous introduire dans un univers totalement original et qu'on ne connaît pas, avec des logiques différentes, des technologies qu'on ne connaît pas, une hiérarchie sociale qui est repensée, un rapport à la mort, un rapport à soi qui est différent, bref. Le film arrive à vraiment nous faire rentrer dans cet univers en 1h30 sans pour autant qu'on soit perdu et sans nous faire apparaître un texte en début de film comme à la Star Wars. Vraiment, juste par la réalisation, le film nous fait comprendre tout ce qu'il souhaite faire comprendre. Et alors, un scénario bien écrit, c'est cool, mais quand c'est accompagné d'une bonne réalisation, c'est mieux. Et Mars Express nous respecte sur ce terrain-là. C'est un film d'animation, je ne l'ai pas précisé, et l'animation est... t'as dit quoi ?
Encore,
ça fait trois fois là. Ouais. Mais du coup, oui, c'est un film d'animation. Et en termes justement d'animation et de réalisation, c'est assez exceptionnel. L'action est vraiment lisible. Il y a des plans qui sont magnifiques. Et j'ai dit que le film avait un rythme vraiment rapide. Mais Jérémy Perrin, le réalisateur, s'autorise quand même à avoir des moments de fascination, des moments plus lyriques, plus poétiques, où on va avoir le temps de respirer. Donc il arrive à parfaitement jouer sur cet équilibre. C'est un film qui est super riche, super dense, qui a beaucoup d'inspiration. On peut voir des inspirations dans l'animation japonaise. Je pense à Ghost in the Shell, mais aussi dans le cinéma américain, comme Blade Runner ou Star Wars, mais ces inspirations, elles sont jamais dérangeantes. On voit que le réalisateur a su les digérer, se les réapproprier et vraiment nous donner un truc original. Le film est sorti le 22 novembre 2023 en salle. S'il est encore disponible autour de chez vous, allez-y, parce que c'est le genre de démarche qu'on doit soutenir. Qui plus est, c'est français, c'est du cinéma français qu'on a envie de voir dans nos salles. Donc allez-y, Mars Express, c'est cool. Mars Express, c'est trop cool même, je dirais.
Wow. Ça a l'air bien. Ça a bien présenté.
Mais franchement, c'est grave bien. Franchement, va au cinéma et mate-le parce que putain, c'est trop bien. Et c'est Léa Drucker qui joue le personnage principal. Voilà.
Ah oui.
Des petites infos.
Ah non, mais c'est un film d'animation. Elle double.
Ouais, elle double.
Ah oui, ok.
Oui, elle double.
Ouais. Okay. D'accord.
Et voilà. Il y a la voix de Usul aussi dedans. Je sais pas si vous voyez qui c'est.
Non.
C'est un journaliste qui fait des trucs sur Twitch et tout. Bon, bref.
Je connais pas.
Je connais pas non plus. Mais ça a l'air bien. En tout cas, c'était très bien présenté. Ça donnait envie.
Ah ben, franchement, faut y aller. C'est qui le suivant ? Quoi, la suivante ?
C'est moi. Du coup.
Eh ben Rebecca, vas-y.
Alors moi aujourd'hui, je vais vous parler d'un album de Rai qui est intitulé Bria, B-R-Y-A, en arabe, et qui veut dire la lettre en français. Il est composé de 10 chansons et il a été réalisé par le groupe Babylon en 2013. Alors, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est le Rai ? Donc le Rai, qui signifie littéralement « mon opinion » en arabe, c'est un style de musique qui est né en Algérie au début du XXe siècle. Et donc, à la base, c'est un style de musique qui a été écouté et produit exclusivement en Algérie et dans le monde arabe, mais qui s'est beaucoup modernisé, notamment dans les années 70. Et aujourd'hui, le Rai est écouté dans le monde entier. Donc, vous devez sûrement connaître le chanteur Khaled, qui, oui. Qui chante « C'est la vie » ou « Aïcha oui. ». Le Rai aujourd'hui est vraiment écouté dans le monde entier. Donc Babylon, c'est un groupe algérien composé de 4 amis. Ils font un mélange de sonorités algériennes et occidentales. Et leur musique s'inspire des différents styles régionaux algériens. Ils mêlent influence berbère, andalouse, orientale et africaine. Et donc pourquoi je vous parle de cet album ? Alors déjà, pour ceux qui font LV2 arabe, ça vous permet d'écouter un peu de musique arabe et de faire pratiquer votre oreille en dehors des cours et de manière plus marrante. Et pour tous ceux qui ne parlent pas du tout arabe, c'est un excellent album pour découvrir justement la musique arabe. Il est très accessible, les instrus, elles sont top, elles mêlent piano, guitare, synthé, instruments arabes. Et donc, si vous n'êtes pas familier avec la langue arabe, que par exemple vous avez plus l'habitude d'écouter de la musique française, anglaise ou espagnole, je sais que c'est plutôt le cas des gens à Sciences Po, enfin je connais pas beaucoup de gens qui écoutent de la musique arabe, ça vous permet de découvrir en finesse justement ce type de musique, parce que les chansons, elles sont très douces et vous pouvez les écouter dans plein de situations, donc en cuisinant, en reprenant vos cours ou dans le train. Et je sais pas si vous faites du vélo. Donc moi, la première fois que j'ai entendu une musique de cet album, j'ai découverte en faisant du vélo au bord de la plage. Et j'ai entendu Jewal. Mmh. Et voilà, donc j'ai tout de suite accroché. Voilà, il faisait beau, il faisait chaud et j'écoutais donc cette chanson. Et ensuite, j'ai accroché avec tout l'album et je pense que vous aussi. Par ailleurs, donc l'album entier est une vraie réussite. Je peux vous citer mes chansons préférées. Donc la première, c'est Zina, c'est la plus connue. Après, la deuxième, c'est Bekitini. Après, il y a aussi la quatrième qui s'appelle Awam W9. Voilà, je sais pas si ça se prononce comme ça. Et la dernière, moi, ma préférée, la huitième, c'est Jewal. Donc, j'ai vraiment choisi ces quatre-là, mais sinon, elles sont toutes vraiment bien. Tout l'album est top. Et l'entièreté de l'album vaut vraiment le détour. Il a même été sacré lors du prix Algerian Music Awards 2014, où le groupe a remporté le prix du meilleur groupe de l'année et celui de la meilleure chanson. Donc voilà, je vous conseille fortement cet album, il est très agréable à écouter, il est vraiment réussi, il est accessible à tous, tant pour ceux qui sont familiers avec la langue arabe que pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Et c'est une excellente porte d'entrée dans l'univers du rail.
Très voilà. Bien Rebecca.
Bah ouais.
En vrai, pour avoir écouté quelques mélodies tout à l'heure, vu qu'on a un peu écouté un morceau, ça donne très envie, c'est très agréable à écouter, genre c'est très très sympa.
Oui, celle qui est un peu connue, ben on a envie de découvrir toutes les autres après. Ouais. Mais du coup, t'as très bien vendu.
Merci. Belle recommandation. Vraiment, je vous jure, tout l'album est fou. Voilà. Allez, je te passe le bâton de la parole, Manon.
Alors,
on est dans un groupe de paroles en fait.
Alors, du coup, moi, je vais vous parler de l'exposition d'hiver de l'hôtel de Caumont en collaboration avec la fondation Musa. Sur l'art nouveau d'Alphonse Muxa. Cette expo, elle couvre toute la période hivernale, donc du 17 novembre 2023 au 24 mars 2024. Alors, Alphonse Muxa, c'est un artiste de la Belle Époque, donc fin 19e. Il vient d'une province slave de l'Empire austro-hongrois, enfin la République tchèque maintenant. Et cet artiste, pour beaucoup de personnes, il a révolutionné le rapport de l'art des contemporains. Et il a une esthétique vraiment particulière qu'il applique à plein de domaines, comme les affiches, la publicité, la décoration d'intérieur ou encore le théâtre. Alors, Alphonse Muxa, c'est une figure majeure de l'esthétique de l'art nouveau. C'est un des mouvements de la Belle Époque. Pour faire un petit focus, la Belle Époque, c'est une période caractérisée par un optimisme, un raffinement culturel et des avancées technologiques en Europe, mais plus précisément en France. Et cette époque, elle a été marquée par la prospérité économique, le développement industriel et la montée de la bourgeoisie. Et sur le plan culturel, ça a été le berceau de mouvements artistiques comme l'art nouveau. Et les avancées technologiques, elles ont transformé la vie quotidienne et ça a contribué à un sentiment de modernité. Mais ça a très très vite pris fin avec la Première Guerre mondiale. Du coup, pour se concentrer sur l'art nouveau, c'est un mouvement artistique, comme je l'ai dit, et il peut se reconnaître par des formes organiques, des lignes courbes et des motifs inspirés de la nature. C'est une réaction au style très académique de l'époque, et l'art nouveau, il a touché divers domaines artistiques, comme l'architecture, les arts décoratifs, la peinture et la sculpture, mais aussi il a touché les objets du quotidien, comme le mobilier, les bijoux. Pour une petite illustration, les fameuses bouches de métro à Paris, c'est de l'art nouveau. Maintenant, pour revenir à Alphonse Muxa, il s'inscrit dans le mouvement de l'art nouveau. Et son art nouveau, à lui, il mélange le mysticisme, le symbolisme et l'identité slave. Ses œuvres, elles se caractérisent par des lignes sinueuses, des motifs floraux, des couleurs riches et une élégance stylisée. Il est très connu pour sa série de panneaux décoratifs Les Saisons, où il a représenté quatre femmes élégantes associées à chaque saison. L'exposition d'hiver...
Enfin, la Vivaldi.
Ouais, c'est la révérence, un peu. Et du coup, l'exposition d'hiver, elle reprend toute l'œuvre d'Alphonse Muxa à travers 120 œuvres provenant de la fondation Muxa basée à Prague. Et cette expo, elle met en lumière toute la splendeur et l'évolution du style. Et vous pourrez admirer les multiples lithographies en couleurs de Muxa. Le parcours de l'exposition retrace la vie de l'artiste et les différentes inspirations de son œuvre, de sa rencontre providentielle avec Sarah Bernhardt, à l'histoire des pays slaves ou en passant aussi par la photographie et la 5e exposition universelle de Paris. C'est une expo que je vais aller voir dans les jours qui arrivent. Je ne l'ai pas encore vue, mais je vous la conseille d'avance car j'ai déjà eu plusieurs retours très positifs. Et je suis une grande admiratrice de l'art nouveau et aussi du travail d'Alphonse Mouxa. Et je suis vraiment très impressionnée par son travail qui est très diversifié. Pour les conseils pratiques, l'hôtel de Caumont se situe à côté du Cours Mirabeau à Aix. C'est un endroit super apaisant. L'entrée pour les étudiants coûte 10 euros. C'est quand même une petite somme. Et c'est très vite rentabilisé par le lieu qui pose une atmosphère captivante. Voilà, voilà.
Ok.
Franchement, moi, j'avais vu l'expo et j'ai très envie d'aller la voir. Genre, vraiment,
mais
j'aime
c'est
beaucoup.
Ça. J'ai décidé d'en parler parce que même si je ne l'ai pas encore
j'ai
vu...
J'ai décidé de
présenter ça parce que, en gros, j'ai pas mal vu toutes les œuvres, mais à travers un écran. Et je me dis que les voir en vrai, ça ne peut qu'être mieux.
Ouais.
Pour le coup.
Clairement. C'est vrai. C'est totalement
bien
vrai.
Dit.
Voilà. Du coup, maintenant, je passe le relais à Laura.
Et oui. Du coup, je fais la dernière recommandation. Donc moi, c'est un film. Donc La vie des autres, en deux mots, historique et intimiste, est un film qui est paru en 2006 et qui se déroule pendant la période d'occupation de l'Allemagne avec la RDA et la RFA. On est effectivement en 1983 en Allemagne de l'Est et on se retrouve plongé dans la vie d'un personnage principal, un dramaturge allemand, Georg Dreyman, qui se plie malgré lui à la censure et au contrôle du gouvernement soviétique. Donc déjà, on se retrouve dans un contexte historique plutôt intéressant. En parallèle, on rencontre dès le début du film un agent de la Stasi, l'agent Wiesler, qui traque, on peut le dire en quelque sorte, passionnément les opposants au régime, parce qu'il est présenté dès le début du film comme quelqu'un qui est matricé par le devoir de servir les services de renseignement soviétiques et, de manière générale, l'État. Donc Wiesler va être chargé par le ministre de la Culture de surveiller Dreyman et il va en fait l'écouter en permanence. Il va intégrer tous les pans de sa vie parce qu'il surveille son appartement. C'est à ce moment-là que les deux dessins des protagonistes vont se croiser sans jamais se voir. Et c'est là pour moi le premier apport du film. En fait, Wiesler connaît toute la vie de Dreyman, ses amis, ses réflexions, son travail, sa relation avec sa femme. Il rentre dans son intimité alors que Dreyman ne connaît absolument pas cet homme et ne le verra jamais. Enfin, il n'y a aucun moment dans le film où il va le rencontrer. Donc déjà, la symétrie de la relation qui se maintient pendant tout le film, pour moi, elle est très intéressante et elle est très subtilement mise en scène. Ensuite, si on suivait simplement la Stasi faire ses opérations de surveillance, ce serait un petit peu ennuyant comme film. Et pour moi, ce qui est prenant, c'est le fait que Wiesler, en fait, va se prendre d'affection pour Dreyman et pour son couple, et même en fait pour sa vie en général. Et c'est ce côté psychologique qui m'a particulièrement plu. En fait, on le comprend assez vite, Wiesler est un homme qui est guidé uniquement par son taf et par l'idéologie du travail. Et en fait, il est vide, donc il a besoin de combler un manque d'affection. On peut donc dire que Wiesler va vivre une nouvelle vie, une vie par procuration, à travers la vie de Dreyman. Au début du film, on sent un côté qui est très dénué de sentiments chez les personnages, même dénué d'humanité, parce qu'en fait c'est quand même la Stasi et c'est en général pas très joyeux. Et on se rend compte que derrière l'agent de surveillance, il y a des émotions, il y a des sentiments, et c'est cette évolution-là pour moi qui est touchante et qui est prenante. Parallèlement, on a un petit peu des histoires de trahison, d'informatrice, etc., qui vont aussi accentuer cette question de la loyauté et de l'humanité que les protagonistes ont les uns envers les autres. Donc pour moi, ce film, il marque parce qu'il traite d'un sujet qui est quand même assez dur, la surveillance sous l'occupation soviétique, assez peu joyeux. Et pourtant, les protagonistes vont faire ressortir des émotions et une vraie preuve d'humanité. Dernier point, la scène finale est géniale. Elle fait écho à l'ensemble de l'histoire. Elle est très très touchante et elle conclut magnifiquement le film. Donc je vous conseille d'aller voir La vie des autres. Vous ne regretterez pas. Vous pouvez le trouver sur Amazon Prime Video. Et après sinon bah, vous pouvez le louer ou l'acheter, mais voilà, il est globalement accessible. Et petit bonus, je voulais juste en parler parce que je suis allée le voir très récemment, je vous conseille aussi d'aller voir Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est un préquel de la série du coup des 3 livres et des 4 films Hunger Games. Je pensais honnêtement être assez déçue par ce préquel parce que c'est pour moi assez dur de faire mieux que la série Hunger Games que j'avais beaucoup appréciée, mais finalement j'ai été agréablement surprise. On sent pas trop le temps passer pendant ce film, c'est prenant et plutôt bien réalisé, franchement c'est bien. Donc je n'en dis pas plus parce que sinon je vais spoil, mais allez le voir, il est toujours en salle, n'hésitez pas.
Et juste, le premier film il est allemand du coup, il est anglais?
Il est en allemand.
Ok.
Il est en allemand, oui, c'est un petit peu un point compliqué.
Non, non, mais si c'est juste pour savoir.
Après, avec les sous-titres, ça le fait très bien. Oui. Il parle pas, enfin, c'est pas trop... Je pensais que ça allait un peu m'embêter, mais en fait, pas du tout.
Ok.
Genre, ça m'a pas ennuyé. Voilà.
Il est sorti quand ?
2006.
Ok.
Moi, je pensais qu'il était sorti bien avant, parce que je sais pas, l'atmosphère du film, en fait, bah, est bien réalisée. En fait, on dirait qu'on est vraiment en 1983. Mais non, il n'est sorti qu'en 2006 et il est vraiment bien. Et je crois qu'il a eu des nominations
okay.
Pour des récompenses, etc. Mais très bien, je vous le conseille.
Ouais, il a l'air cool.
Ouais, ouais franchement.
C'est bien. Après, je sais, c'est un sujet en soi qui est assez abordé dans les films. Enfin, c'est pas le premier film que je vois qui traite de ce sujet-là. Mais il est, c'est hyper genre, psychologique et hyper intimiste. Et c'est ça, je pense, qui fait la valeur du film. En tout cas, si on aime bien ce genre de film.
Ok.
Voilà la team.
Sympa.
Mais du coup, on a fini ce tour de table.
On a fini ce tour de table, ouais.
Ouais, c'était vraiment intéressant.
C'est
ouais.
Très intéressant.
Bah,
merci à tous pour vos retours.
Tu conclus ?
Non, conclus. Moi, je remercie.
C'est ok.
Je suis dans le remerciement, moi.
On vous remercie si vous nous avez écoutés jusqu'ici. Si, si vous avez envie de lire les choses qu'on a conseillées, de voir les films qu'on a conseillés, etc., et bah, allez-y. N'hésitez pas à faire des petites stories, vous nous mentionner pour
la fête. Ah oui, clairement, pour la
fête.
Ça nous ferait plaisir.
N'hésitez pas à nous donner des retours, même que ce soit sur le podcast en soi ou sur les recommandations qu'on vous a faites. On vous donne rendez-vous à très bientôt.
Très très bientôt.
On vous remercie pour nous avoir écoutés. Et on vous envoie plein d'amour.
Merci la team.
Merci. Au revoir.
Au revoir.